Pour le message de ce matin, je voudrais aller à l'essentiel, d'abord parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, et puis parce qu'on ne peut pas tout résumer dans une seule réunion, donc je pense que le message de dimanche prochain sera encore un message qui fera partie de la rentrée. Comme je vous ai dit, on l'a affiché, Jésus lui dit « Toi, suis-moi ». Ça c'est une parole, on la prend dans Jean 21, quand Jésus parle à Pierre. David nous en a parlé hier en disant, bon, peu importe, que t'importent les autres, mais toi, suis-moi. Toi, tu me suis. Et dans un autre passage de l'Évangile, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, verset 18, il nous est dit, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Donc l'appel est toujours individuel, mais parfois il est en groupe. Vous savez, c'était là une mini-réunion d'évangélisation, j'allais dire. Il y avait deux personnes, et Jésus a appelé ces personnes, et il leur a dit, « Suivez-moi. » Suivez-moi. Dès que Jésus a dit à Simon et André, à Pierre et André, de le suivre, il leur a dit pourquoi il fallait qu'ils le suivent. Est-ce que vous avez remarqué ? Ce n'est pas simplement « suis-moi ». Qu'est-ce qu'il leur dit ? « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Le but principal, l'appel de Jésus contient une mission. L'appel de Jésus que tu as reçu, c'était peut-être il y a 3 semaines, c'était peut-être il y a 30 ans, mais l'appel de Dieu que tu as reçu, il contient une mission. Je vous ferai pêcheur d'hommes. Jésus, un jour, va donner un autre exemple à ses disciples. Il va raconter une histoire que vous connaissez tous sans doute. Il raconte l'histoire d'un berger. Et ce berger a 100 brebis. Et puis il se régale avec ses brebis, il les amène dans des bons pâturages, il les compte, il les soigne. Et puis un jour, il se rend compte qu'en fait, il pensait avoir 100 brebis. Mais il n'en a pas 100. Il en a 99. Et alors l'Évangile nous dit qu'il va laisser les 99 pour aller chercher la brebis qui est encore perdue. Celle qui est loin. Celle qui est soumise au loup. Alors, est-ce qu'il abandonne les 99 brebis ? Non. On imagine qu'en tant que bon berger, il prend soin de ces 99. Il les met dans un endroit où il n'y a pas de risque. Il les met peut-être dans l'enclos. Il met les chiens avec pour qu'ils soient gardés, etc. Mais en tout cas, Jésus dit, le bon berger, il quitte les brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Je pense que ça correspond à cette promesse faite aux disciples de devenir des pêcheurs d'hommes. Le berger n'abandonne pas les 99, il s'en préoccupe, mais il se préoccupe encore plus de celle qui est perdue. On pourrait dire, chacun pourrait dire, mais c'est les évangélistes qui s'occupent des brebis perdues. Jésus va dire non, 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 c'est le pasteur, c'est le berger. C'est chacun des chrétiens. Celui qui aurait le ministère qui pourrait dire « Moi, je ne m'occupe pas d'aller chercher la brebis perdue parce qu'il a une bonne excuse, il est berger. » Jésus dit « Non, non, c'est toi en premier qui dois aller chercher la brebis perdue. » Le rôle du responsable d'église, le rôle du responsable d'activité, le rôle de n'importe quel chrétien n'est pas en premier de garder le troupeau. Ce n'est pas un rôle d'entretien. L'Église n'est pas quelque chose qui doit ronronner avec un bon entretien. Mais le rôle du chrétien, c'est de faire grandir le troupeau. C'est d'aller chercher celle qui manque. Et il y en a qui manquent. C'est un rôle de salut. La brebis, elle est définie, cette centième brebis, elle est définie en fait comme étant la brebis perdue. C'est fort comme mot. Quand on prend l'histoire telle quelle, oui, ben voilà, elle est perdue, il faut aller la chercher pour la retrouver. Mais que la brebis soit perdue, ça veut dire que la brebis, elle est en perdition. Et il y a plein de gens autour de nous qui sont en perdition. Il y a plein de gens autour de nous qui risquent la perdition. Et on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent. Mais c'est quelque chose de terrible. L'évangile n'est pas qu'une option à rajouter à la vie des gens. La prédication de l'évangile, ce n'est pas simplement parce que les pauvres gens sont malheureux, donc il faut qu'ils soient heureux. C'est vrai que c'est ça aussi. Mais notre évangile, ce n'est pas une option. Vous savez, vous avez votre vie, vous avez votre belle voiture, et puis quand même, il fait chaud, ce n'est pas agréable, donc on rajoute l'option clim. Et l'évangile serait la clim pour ne pas souffrir de la chaleur l'été. Ce serait juste un baume, un pansement, une béquille. L'évangile, c'est tout ça, mais ce n'est pas d'abord ça. L'évangile, c'est une question de salut, présent et éternel. Jésus parle de deux portes, de deux chemins. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et je pense que Jésus disait ça en pleurant. Et il y en a peu qui les trouvent. Pardon. Sur l'image, on ne voit pas bien, il n'y a pas assez de luminosité, mais là, on voit une large route avec autant au fond l'étang de feu qui est décrit dans l'Apocalypse, avec des ombres humaines qui sont là au milieu. Et puis à côté, il y a une montagne, un petit chemin étroit, tortueux, qui monte, mais qui va vers une description de ce que l'Apocalypse nous dit aussi. L'Apocalypse nous donne une description de la Jérusalem. Et quand on mesure, vous savez, il y a des mesures de cette Jérusalem céleste, elle est carrée en fait. On a du mal à s'imaginer, mais c'est comme ça. Et je crois que c'est important en début d'année comme ça, et quand qu'on réalise ce « toi, suis-moi », l'implication que ça a. C'est qu'on ne le voit pas parce qu'on vit tous avec nos visages d'êtres humains, mais tous les êtres humains ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont en marche vers le ciel, vers la gloire, et il y en a qui sont en marche vers l'enfer et vers la perdition. Et je crois que c'est très important en ce début d'année de demander au Seigneur de nous donner de la compassion, de nous visiter. Et quand le Saint-Esprit nous visite, je ne sais pas si le Saint-Esprit fait rire, moi je suis sûr que si, parce que ça m'arrive souvent de rire sous l'onction, mais le Saint-Esprit peut faire pleurer aussi. Et parfois pleurer sur les âmes, pleurer sur le monde qui se perd. Alors je voudrais revenir à la notion de pêche miraculeuse. Bon, j'ai fini, j'ai loupé mon effet, mais je le refais quand même. Hein ? Normalement, je devais dire, ah non, je me trompe. Voilà, c'est ça la bonne image. C'est la pêche miraculeuse. J'ai le sentiment vraiment que le Seigneur nous encourage à réfléchir à cette dimension dans nos vies personnelles. Quelle est mon implication dans le salut des pêcheurs ? Je voudrais vraiment, là, je ne fais pas un message global. J'aimerais vous parler à chacun d'entre vous comme si c'était un entretien personnel. Quelle est ton implication dans le salut des pécheurs ? C'est important de réfléchir à ça. Et vous savez que quand je prêche, en général, j'ai un miroir en face de moi et que je me prêche à moi-même en premier. On peut réfléchir à ça, par exemple, en se disant qui est-ce qui, dans l'Église, ne serait pas là si moi je n'avais pas été là ? Je redis cette question, réfléchis chacun. Qui est-ce qui est là dans l'Église, mais qui ne serait pas là si moi j'avais pas fait ce qu'il faut ? Est-ce que vous voyez quelqu'un qui, si vous n'étiez pas intervenu, ne serait pas là ? Parce qu'il n'aurait pas connu le Seigneur ? Pour le dire autrement, je pourrais dire, mais dans la conversion et le salut de qui ai-je été décisif ? Moi, ça m'arrive souvent de réfléchir à ça. À quoi j'ai servi ? À qui j'ai servi ? Qui est-ce qui a basculé dans la vie éternelle ? Pas à cause de moi, mais quand même à cause de moi. Parce que j'étais là au bon moment, au bon endroit et que j'ai fait ce qu'il fallait. Qui est-ce que j'ai amené au Seigneur ? Et je parle aux disciples de Jésus, là. Si vous n'êtes pas encore disciple de Jésus, choisissez votre chemin. Il y a deux chemins. On l'a vu, il y a deux voies, il y a deux portes. Et c'est important de choisir. Parce que par défaut, on a choisi la mauvaise. Donc il faut choisir la bonne. Choisis la vie. Mais ce matin, je parle à chacun de nous, chrétiens, enfants de Dieu, disciples. C'est sérieux que d'être enfant de Dieu. Quand j'étais jeune chrétien, je devais être chrétien depuis 2 ans à peu près. Je me suis converti à l'âge de 18 ans. J'ai quitté mes études à 20 ans, que j'ai repris bien plus tard. Et donc j'étais à plein temps dans une église, on vivait en communauté. Et puis on avait été invité à visiter une église en Suisse. Donc on était parti avec un minibus sur la Suisse. Et puis on avait entendu parler d'un homme de Dieu suisse de l'époque, c'était les années 80, qui avait un impact vraiment puissant pour l'évangile en Suisse. Il était connu partout, il avait créé des communautés partout. Il y avait vraiment un impact puissant d'évangélisation. Et sur notre chemin, on pouvait passer près de là où il habitait. Donc on a fait un petit détour, pas un gros détour, pour le visiter et pour parler avec lui. C'est toujours intéressant de parler avec des hommes de Dieu, de passer du temps avec des hommes de Dieu qui ont un impact, notamment dans une nation complète. Et alors avec lui, il nous a accueillis dans la communauté. Lui aussi vivait dans une communauté. Et on a parlé de plein de choses. Mais la seule chose dont je me souviens, parce que c'était il y a bien longtemps, mais surtout parce que ça m'a impacté, c'est une question qu'il a posée à notre équipe. On était, nous, une équipe de tout feu, tout flamme. Il y avait beaucoup de jeunes, jeunes convertis depuis 2 ans. Vous imaginez le feu que j'avais, etc. Donc vraiment, à fond, quoi, à fond pour Dieu. Mais à un moment de l'entretien, il s'est tourné vers chacun de nous, mais individuellement, comme ça, il nous a regardé chacun dans les yeux. Et puis, il nous a posé une question à chacun. Toi, tu as amené combien d'âmes au Seigneur cette année ? Toi, tu as amené combien d'âmes au Seigneur cette année ? Ça m'a fichu une baffe que donc 30 ou 35 ans après, je m'en souviens encore. Et cette parole, elle résonne toujours. Parce que cette parole, c'était une clé pour moi. C'était une clé pour ma vie, pour me ramener toujours à l'essentiel. C'est que l'essentiel de ma vie ici-bas, elle doit être d'amener des hommes de la mort à la vie. Et je peux être pasteur, je peux être médecin, ce que je suis, je peux être maçon, je peux être instituteur, je peux être, j'en sais rien, informaticien, je peux être apôtre, prophète, n'importe quoi, enfin tout. Plutôt que n'importe quoi. Combien d'âmes tu as amené au Seigneur cette année ? Ça a eu un impact incroyable. C'était une question pour moi qui pouvait paraître un peu violente. En fait, elle ne pouvait pas paraître. Elle était très violente, cette question. Mais c'était quelque chose de tellement important. Je suis là sur terre pour que des âmes soient sauvées et soient rassemblées en une communauté vivante. C'est ça l'essentiel. À l'échelle de l'éternité, est-ce qu'il y a quelque chose qui compte le plus ? Dans l'Épître aux Hébreux, cette magnifique épître qui nous parle de Jésus, du souverain sacrificateur, vous savez, c'est tout cette épître qui reprend toute l'ancienne alliance et qui explique la place de Jésus en tant que souverain sacrificateur, etc. etc. Et il y a un endroit où Jésus est décrit d'une façon extraordinaire. C'est dans Hébreux 2, 13. Il est dit, Jésus dit, dans Hébreux 2, 13, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Et le résumé du souverain sacrificateur, c'est ça. « Seigneur, je me présente devant toi, Dieu. Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. » Alors on peut dire, moi je peux dire, bon ben, me voilà avec les 4 enfants, Matthieu, Julien, Clémence et Thomas, que Dieu nous a donnés. Jésus n'a jamais eu d'enfant sur terre. Donc ça a un autre sens. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Et ça m'arrive, je sais pas, c'est un partage de cœur à cœur que je vous fais ce matin. Mais ça m'arrive, moi, de réfléchir à mes 30 et quelques années de vie chrétienne et de me dire, quand je vais arriver au ciel, à part le fait que je vais porter simplement le sang de Jésus parce que c'est la seule porte d'entrée pour moi et c'est la seule garantie de mon salut, j'ai envie de me poser la question, mais est-ce que je vais pouvoir dire et comment je vais pouvoir dire, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Et je repense à un tel, et je repense à une telle, et je repense à un tel, et je repense à Joël, et je repense à tellement d'autres. Non, pas tellement d'autres, je suis désolé. À pas beaucoup d'autres. À pas beaucoup d'autres. À pas assez d'autres. Je ne sais pas si mes deux mains serviraient à décrire le nombre de conversions où je sais que j'ai été clé pour le salut de la personne. Chaque année, j'y pense. Combien d'âmes cette année pour lesquelles je vais faire la différence? Combien d'âmes cette année pour lesquelles tu vas faire la différence? Pour lesquelles tu vas contribuer de près ou de loin à leur salut? Parce qu'on peut contribuer au salut par l'invitation. Lauriane a fait un super travail. Il y a quelqu'un qui est reconnaissant à fond de ça. Donc ça peut être simplement une invitation. Ça peut être la fameuse invitation alpha. Trois fois rien, un petit bout de papier. Osez le donner. Mais ça peut être aller plus loin. Ça peut être beaucoup plus. Il y a un verset dans les Proverbes, David l'a cité hier, que j'aime beaucoup et qui m'a souvent aidé. Le sage s'empare des âmes. Le sage s'empare des âmes. Et ça décrit bien ce qu'on fait quand on témoigne de l'Évangile. Nous sommes appelés pas à raconter une belle histoire aux gens. Oui, c'est une belle histoire, l'Évangile. On n'est pas simplement appelé à proclamer une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est son nom même, hein ? L'Évangile, l'Évangélium. Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais on est appelé, la Bible nous le dit, à nous emparer des âmes. J'ai toujours ressenti une différence entre témoigner de l'Évangile et m'emparer des âmes. Vous sentez la différence? Et Jésus va dire, vous allez être des pêcheurs d'hommes. Vous n'allez pas attendre que les poissons sautent dans la barque. Ça arrive, hein, les poissons volants, de temps en temps, pouf, ils sautent, par chance, ils tombent dans la barque. Et des fois, dans l'église, c'est un peu ça. Il y a des gens qui arrivent, ils sautent tout seuls dans la barque. Alléluia! Dieu ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Mais le Seigneur n'a pas dit, restez dans la barque et attendez. Il a dit, jetez les filets. Le sage s'empare des âmes. Et être un gagneur d'âmes, ça requiert, j'allais dire, de mobiliser d'autres énergies, d'autres dons. Bien sûr, la grâce de Dieu, mais aussi la volonté, le souci, l'enthousiasme, le fait d'appeler les gens, pas seulement de leur dire, mais de les appeler. Viens, viens et vois. On a rencontré quelqu'un, je crois que c'est le Messie. J'ai rencontré une église, ils ont l'air un peu fous, mais Dieu est là. Viens. Le sage s'empare des âmes. Ce n'est pas le temps ce matin, mais on aura l'occasion dans le courant de l'année de le faire, de nous aider les uns les autres, d'aider chacun de vous à devenir un gagneur d'âme. Si tu es chrétien, normalement tu dois savoir évangéliser, tu peux au moins partager ton témoignage. Au moins dire, c'est pour ça qu'on va décrire régulièrement et entendre régulièrement des témoignages, c'est tout simple. Décrire ce que j'ai vécu, ça c'est pas compliqué. Mais on peut aller plus loin aussi, apprendre à amener quelqu'un au salut, apprendre à prier avec quelqu'un, à faire le pas, à lui faire les premiers pas dans la vie chrétienne. Alors je voudrais juste finir ce matin avec un petit défi à vous proposer. J'ai un petit défi à vous proposer. Elle n'est pas contente. Je me suis dit, bon, un message comme ça, faut finir avec un défi, une mise en pratique. Vous avez fait ma dernière mise en pratique, au fait. Je sais que David l'a fait. Hein, la lecture du psaume 119 tout en entier. Mais il m'a dit ce matin, il a fait une erreur, c'est qu'il n'a pas encore appris tout en hébreu. Mais ça va venir. Ça va venir. Le petit défi, alors, c'est un défi si vous voulez le prendre. Mais si chacun d'entre nous, on prend ce défi au sérieux, en tout cas qu'on le reçoit de Dieu, pas de Joël, mais qu'on le reçoit du Saint-Esprit qui nous convainc et qui nous met la pression sur nos cœurs, parce que le Saint-Esprit met parfois la pression sur nos cœurs. Et heureusement, sinon on n'avancerait pas. Je l'ai appelé ce défi, le défi 5-1. Défi 5-1, faire venir 5 personnes nouvelles à l'église dans l'année et amener personnellement une personne au Seigneur dans l'année. Et si on se donnait, je tremble en vous le disant parce que vous imaginez ce que ça veut dire pour moi, et si on se disait, mais Seigneur, je vais collaborer avec le Saint-Esprit cette année. Je vais collaborer avec le Saint-Esprit cette année et je veux amener là, ici, dans cette salle, 5 personnes qui n'ont jamais mis les pieds ici, et qui ne sont pas chrétiennes surtout. Dans l'année, c'est pas beaucoup. Hey, ça ne semble pas beaucoup. On est combien ? 60 et quelques membres. 5 fois 60 ? Plus de 300 personnes qui vont passer ici ? Il y a du monde qui passe tout le temps, et je prêche à des convaincus. Il y a du monde qui passe ici. Mais imaginez, alors je vous laisse réfléchir, c'est qui ces 5 ? Que vous allez traîner ici. Traîner par amour. La Bible nous parle de cordage d'amour. De cordage d'amour. 5 personnes. C'est possible ? Je sais pas. 5 personnes. Toi, 5 personnes. Des voisins, des amis, de la famille, des collègues de travail, des collègues de la gym, des collègues de l'école, des collègues de je ne sais pas où. 5 personnes dans l'année. Ça ne semble pas très haut comme barre. Mais en fait, on ne le fait pas. Et une âme au Seigneur. Une âme que j'amène au Seigneur. Ça veut dire qu'on double en un an ? Non, parce qu'il y a encore des gens qu'on envoie. Et on est une église comme ça. Hein. Hop, on en reçoit, on envoie, on reçoit, on envoie. Mais, est-ce qu'on ne peut pas terminer comme ça ? J'ai fini hein, mon message. Je dis ça pour Farid qui ne me montre pas sa montre, il n'en a pas, mais j'entends ses pensées. Est-ce qu'on peut se poser la question devant le Seigneur de notre responsabilité ? Parce que Jésus, il meurt d'envie de dire à ces 5 personnes cette année, toi, suis-moi. Et si sur les 5, il y en avait une qui disait oui, Jésus. Oui, Jésus. J'ai eu le privilège de prier il y a 3 semaines avec Nairi. On a fait cette prière de salut, de conversion. C'était tellement beau de manger avec lui hier et d'entendre qu'il y a vraiment il y a un avant et un après. Un avant et un après. Il y a rarement quelque chose de plus beau qu'une âme qui passe des ténèbres à la lumière. C'est incroyable. Incroyable. Pour Joël, c'était les pieds dans le Jourdain. Tu te souviens ? Ça fait presque un an. Pieds dans le Jourdain, au mois d'octobre dernier. Une vision. Waouh, chou. Je vous invite à vous lever. Et on va juste finir en priant. Je peux fermer les yeux. Alors surtout, si vous sentez une pression qui vient de moi, oubliez tout. Oubliez tout. Mettons-nous devant le Seigneur, fermons les yeux. Si c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. Quand ce frère, quand j'avais 20 ans, quand ce frère m'a dit cette chose en face, toi tu as amené combien d'âmes au Seigneur ? J'étais presque en colère qu'il me dise ça. Parce qu'il y avait la réaction humaine, j'entendais la parole de l'homme. Et je me disais, lui, il a de la chance au moins, ça marche, moi ça ne marche pas. Mais après, le Saint-Esprit m'a appliqué ça sur le cœur. Tu es là parce que tu as un trésor qu'il faut partager avec d'autres. Et c'est pas juste un petit plus pour leur vie, c'est pas une option à rajouter dans leur belle voiture. C'est pas juste une béquille parce qu'ils boitent dans la vie. C'est les faire passer de la mort à la vie. Seigneur, vraiment, j'ai à cœur de te prier pour moi-même et pour chacun des frères et sœurs de l'Église ici, pour que, par l'Esprit, tu agisses dans nos cœurs, pour que quand on n'ose pas ouvrir la bouche, maintenant notre bouche s'ouvre, pour que quand on se sent un peu emprunté et qu'on ne sait pas par quel bout prendre les gens pour les amener ici, tu nous donnes la capacité, les mots, la façon de faire pour les amener. Pour que quand on sent que l'un ou l'autre est ouvert, on ne se contente pas de lui dire des belles paroles, mais qu'on puisse l'amener au pied de la croix et prier avec lui la prière de repentance et de conversion. Seigneur, merci de nous rappeler au début de cette année que tu nous envoies dans un monde perdu pour apporter la lumière. Merci Seigneur. Amen.